BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections législatives 2024 dont le premier tour est prévu ce dimanche. Nous recevons l'intégralité des candidats de la 8e circonscription et ce matin, je suis en compagnie de Stéphane Champagne, sans étiquette et dont la suppléante est Fadwa Ghazouani. Stéphane Champagne, bonjour.
Bonjour, bonjour à vos auditeurs.
Tout d'abord, une question qu'on a posée à tous les candidats. Qu'avez-vous pensé du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le soir des élections européennes le 9 juin dernier ?
J'ai reçu le même coup de massue que tout le monde. D'autant plus que, puisque je vous rappelle que en France, il y a 36 000 communes, dont beaucoup de petites et en province. Donc en général, vous avez le résultat des élections à la télévision au national avant que nous, dans nos bureaux de vote, nous ayons fini de dépouiller. Donc pour vous replacer le contexte, j'étais à la mairie, nous étions en plein dépouillement quand nous avons appris cette décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc un coup de massue comme tout le monde, et puis c'est vrai qu'au local, quand on se dit, en plus, quand on apprend cette nouvelle, alors qu'on est nous-mêmes en train de dépouiller, on se demande si nos voix comptent vraiment. Enfin, je veux dire, le respect voulu, peut-être d'attendre un peu plus, au moins une heure, mais non, dans tous les cas, c'était une décision totalement inattendue, très dangereuse, et dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire.
Vous êtes donc élu sur le territoire, puisque vous êtes maire de Saint-Martin-la-Garenne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces élections législatives qui sont une première pour vous ?
Alors, je suis maire de Saint-Martin-la-Garenne depuis 10 ans, donc élu en 2014 et réélu en 2020. Depuis 2020, j'occupe aussi une vice-présidence à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Entre 2020 et 2022, j'ai travaillé sur les questions du logement, de la politique de la ville, et puis depuis 2022 sur la lourde question des déchets, avec beaucoup de sujets sur la table, à travailler avec les 73 maires de la communauté urbaine, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, et fort de cette expérience, je pense que je pouvais offrir cette troisième voie aux électeurs de la circonscription, puisque j'ai tout de suite pensé que le choix qui nous était offert à nous, habitants de la circonscription, était quand même un peu compliqué entre des populistes de droite et des populistes de gauche. Donc l'idée, c'était d'avoir un candidat modéré, un candidat qui soit peut-être le candidat de la sérénité, puisque quand on voit les débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où finalement, ces dernières années, il s'est pas passé grand-chose, alors que le pays aurait nécessité de faire beaucoup de choses, mais on a été dans des débats idéologiques, des invectives, des insultes, on l'a vu encore très récemment, avec des conflits internationaux qui font ingérence dans les affaires franco-françaises. Donc tout ça crée un climat très compliqué, et les choix qui nous étaient offerts sur la circonscription m'ont semblé quand même assez indignes de ce que nous étions, nous, habitants de cette circonscription. Donc j'ai souhaité proposer une autre alternative avec Fadwa Ghazouani, qui est mon pendant de la rive gauche, qui elle a été adjointe au maire à Mantes-la-Jolie, donc a une expérience de terrain d'élu local tout comme moi, et un peu différente cependant, puisque elle est sur la ville, que moi je suis plutôt un maire rural, et qu'on a une complétude qui fait qu'on a beaucoup de discussions tous les deux, et qu'on avance très bien, qu'on se complète parfaitement, et je pense que cette alternative... elle est intéressante, et d'ailleurs quand on se promène sur les marchés dans les rues, on entend beaucoup de gens nous dire merci, heureusement que vous êtes là, parce qu'on savait pas pourquoi voter avant d'apprendre votre candidature.
Vous êtes, on l'a dit, sans étiquette, j'en parlais en préambule. Cependant, vous êtes soutenu par Pierre Bédier, qui vient de claquer la porte des Républicains après l'appel d'Éric Ciotti, président des Républicains, à rallier le Front National. Est-ce que c'est une tendance vers laquelle vous allez ?
Alors, nos soutiens sont multiples, puisque je pense que nous sommes les candidats les plus soutenus dans cette élection. Je crois que nous sommes les seuls à avoir autant de soutien d'élus locaux. C'est pas le cas des autres candidats. On a effectivement le soutien du président du conseil départemental, de la conseillère départementale du canton de Limay, Cécile Dumoulin, du maire de Guernes, de Follainville-d'Ennemont, de Jambeville, de Breuil-en-Vexin. Alors, je ne vais pas tous les citer, en plus je risquerais d'en oublier, éventuellement d'en rajouter qui ne sont pas sur la liste, mais vous avez cette liste, donc vous pouvez voir qu'on est très soutenu par de nombreux élus locaux de toute étiquette, et voire non inscrits.
On va se tourner maintenant vers votre programme. Pour ça, on s'est basé sur les préoccupations principales des Français, qui les touchent le plus, dans un sondage CSA pour CNews Europe 1 LGDD, qui est sorti le 6 juin dernier, juste avant les élections européennes. En première préoccupation arrive le pouvoir d'achat, avec 39% des voix.
Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte depuis la crise des Gilets jaunes, il y a déjà quelques années, s'il fallait cet événement pour s'en rendre compte. Effectivement, quand on rencontre les gens dans la rue, quand on connaît les gens, quand on fait partie des classes moyennes, et il y a pire que les classes moyennes encore, oui, on voit beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à se nourrir et à nourrir leur famille, et puis beaucoup de mal à se soigner également. Parce que, et ça, c'est quand même... c'est pas quelque chose qu'on connaissait en France il y a encore 10 ou 20 ans. Je pense que j'ai du mal à parler de la France aujourd'hui comme d'un pays riche. Je continue à penser que c'est un grand pays, mais la situation actuelle est dramatique et le pouvoir d'achat, bien évidemment. Puisque, et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on a eu ces dernières années des débats hautement philosophiques, hautement politiques. On a parlé de la PMA, on a parlé de sujets sociétaux, dans tous les sens. Mais la première des choses, c'est que la population est à manger dans l'assiette. Après, on peut se lancer dans des discussions philosophiques, et pourquoi pas? Je pense que la PMA, c'est un vrai sujet, c'est un sujet sérieux, sur la fin de vie également, il y a plein de sujets sociétaux qui nécessitent qu'on parle. Mais on a eu l'impression là qu'on avait des politiciens déconnectés du terrain, puisque pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais eu et ils n'ont pas de mandat d'élus locaux, et... voilà, on a entendu des gens philosopher, être sur des considérations hautement idéologiques, mais très éloignées du quotidien des Français, parce que effectivement, les Français, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils ont en assiette. Aujourd'hui, j'entends des candidats dire si on est élu, on va revenir sur la réforme des retraites. La réforme des retraites a été très douloureuse, elle a été aussi une nécessité, et ce qui est très drôle, parce que si des candidats viennent vous dire on souhaite revenir sur la réforme des retraites, déjà je pense, un, que c'est la meilleure manière de rouvrir des cicatrices, soit ça a été fait sans concertation et parce que c'était un peu la méthode du gouvernement Macron et parce que les oppositions sont aussi restées dans leur rôle de parti politique avec des positions idéologiques loin du pragmatisme du terrain et aujourd'hui, cette réforme, elle a été douloureuse, mais elle était nécessaire. Il y a trois solutions, en fait. Dans toutes les communes, on croise partout des gens d'un certain âge, de plus en plus âgés. On voit beaucoup de centenaires, alors ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a travaillé ces dernières décennies, que la médecine a progressé, qu'on vit probablement mieux, donc les gens vivent plus longtemps. Mais c'est pas un problème idéologique, c'est un problème arithmétique. Donc, aujourd'hui, il y a trois solutions si vous voulez régler le problème des retraites. Ou on allonge la durée de travail, c'est ce qui s'est fait. Et si vous renoncez à ça, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est un peu les propositions que j'ai entendues chez certains candidats. Donc s'ils ne sont pas pour l'allongement de la durée de cotisation, c'est simple, il y a deux possibilités, pas plus. Ou vous augmentez les cotisations des personnes qui travaillent, ou vous baissez les pensions des retraités. Je vois pas de quatrième solution. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de candidats aujourd'hui qui, pour parler des retraites, parce que c'est aussi un sujet très idéologique et que ces gens-là ne sont que dans la posture politicienne, loin des élus de terrain, loin des habitants du terrain, ces gens-là vous parlent de la retraite et sont en train de vous dire qu'ils vont réouvrir une cicatrice qui a déjà été très douloureuse au lendemain des élections s'ils sont élus, et avec quelle solution? Baisser le pouvoir d'achat des Français.
Une seconde préoccupation, c'est l'immigration, qui arrive avec 36% des voix. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, ou quel est votre point de vue?
Oui, je pense qu'il y a des sujets d'immigration, effectivement. Je pense que c'est pas, ça règle pas, c'est pas le seul problème. On a beaucoup de problèmes et dans tous les sens. La France a toujours été une terre d'accueil. On s'est construit sur les vagues d'immigration successives, qu'elles soient italiennes, portugaises, maghrébines, africaines. On a un modèle d'intégration aujourd'hui qui est un peu grippé. Donc effectivement, je pense que naturellement, il faut pas être laxiste. Ça veut pas dire de fermer les frontières non plus. J'entendais le programme d'un parti qui nous disait qu'il allait mettre des doubles frontières. Alors ça m'a beaucoup amusé parce qu'il y a quelques années, ce même parti nous proposer une double monnaie. Donc ils voient tout en double chez eux. Très honnêtement, c'est pas quelque chose de très crédible. Je me souviens à l'époque où on nous disait, alors on va sortir de l'euro, et après non, on veut pas sortir de l'euro, ou plus tout à fait. Donc je vois bien, alors les personnes âgées, et puis même vous et moi, nous balader dans la rue avec deux porte-monnaies, un porte-monnaie avec des euros et avec des francs. Bon, aujourd'hui, on nous explique qu'il va y avoir deux frontières, une frontière européenne et des frontières nationales. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Effectivement, on peut pas être laxiste sur l'immigration, puisque dès lors qu'on ne peut pas intégrer les gens et leur apporter une vie décente, on peut pas accepter toute la misère du monde en France. Pour autant, on a des règles qui sont déjà bien établies. Je pense qu'il faut surtout déjà faire respecter les règles existantes.
On va se tourner aussi vers le local, la 8e circonscription que vous connaissez bien. Le principal sujet qui attire en tout cas les habitants, ça va être la maison d'arrêt de Magnanville.
Oui.
Quelle est votre position ?
Alors la maison d'arrêt de Magnanville, j'étais parmi les premiers élus à me mobiliser puisque...
Pour l'instant, on le rappelle, à l'étape de projet.
Qui est pour l'instant à l'état de projet. Il y a plusieurs mois déjà, j'avais participé à une marche à côté de plusieurs élus, dont le maire de Magnanville et surtout les associations. Magnanvilloise. Et puis plus récemment, il y a eu un autre événement où là, on était encore plus nombreux et où il y avait encore beaucoup plus d'élus. Je crois qu'on était 500 ou 600 personnes dans une salle à Magnanville.
La réunion publique.
J'ai participé à ces deux événements. Donc vous l'aurez bien compris, je suis farouchement opposé à ce projet tel qu'il est et là où il se trouve. Aujourd'hui, il nous faut des prisons en France. On a besoin de prisons. Donc il ne s'agit pas de dire on n'en veut pas parce qu'on n'en veut pas. Ce projet est très mal ficelé, il a été imposé aux élus du territoire, donc il se fait sur des terres agricoles, on expulse donc un agriculteur, et alors qu'on a demandé au maire de rendre des terres urbanisables en terrain agricole et naturel, ça c'était au moment où on a travaillé sur le plan local d'urbanisme intercommunal il y a quelques années, j'ai reçu des gens dans mon bureau pour leur annoncer que leur terrain, qui valait à l'époque 150 000 euros, n'en valait plus que 2000. Parce que les maires ont joué le jeu. Donc, on a joué le jeu. Alors, imaginez, quand vous avez joué le jeu, quand vous avez fait cela, quand vous vous êtes fait engueuler pour l'avoir fait, parce que en général, les gens, ils vont plus engueuler leur maire que leurs élus nationaux ou le gouvernement, hein, parce que on est plus en proximité. On a joué ce jeu. L'État arrive aujourd'hui et nous dit, moi, je vous mets une prison de 700 personnes, en R plus 6 ou 7, je sais plus, donc un rez-de-chaussée plus 6 ou 7 étages, 700 détenus sur des terrains naturels. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui, d'emblée, passe mal. D'autre part, ce projet donc nécessite de faire traverser les convois par Magnanville. Je vous rappelle le triste événement qu'on a vécu il y a quelques mois avec l'attaque d'un fourgon carcéral. Donc les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Sur l'eau, l'assainissement n'a pas vraiment de piste. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, parce que c'est énorme. Ça doit représenter à peu près 25% de la population de Magnanville aujourd'hui, mais il faut des infrastructures. On ne crée pas une ville comme ça demain. Enfin, même pour créer une ville nouvelle, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, c'est une ville dans la ville, qui n'est pas située au bon endroit. Et juste, je voudrais rappeler, pour en finir, je vais essayer de ne pas être trop long, que les élus locaux ont proposé des solutions alternatives. Sur des friches industrielles, etc.
Donc, si vous êtes élu, député, vous resterez un homme de proximité, vous surveillerez le terrain.
Alors, si je suis élu, je resterai un homme de proximité, parce que je pense que notre député doit aller voir les habitants régulièrement. Je parle toujours des maires, alors, mais parce qu'en fait, nous sommes un peu les relais de la population. Donc, effectivement, et la première des choses que je ferai au lendemain de mon élection, ce sera surtout de demander un rendez-vous avec le ministre de la Justice pour discuter de cette prison de Magnanville et lui dire notre hostilité.
Merci en tout cas Stéphane Champagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera bien sûr rediffusée à 18h aujourd'hui. Vous pourrez la retrouver en podcast ainsi que celle de l'intégralité des autres candidats de ces élections législatives sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.